Bientôt 7h36 sur France Culture. Davantage de critiques, mais au bout du compte, les députés adopteront aujourd'hui la prolongation de l'état d'urgence. On s'attend d'ailleurs à un vote massif à l'Assemblée nationale. 3 mois de plus que le Sénat a déjà d'ailleurs approuvé par 316 voix contre 28. Bonjour Catherine Dutu.
Bonjour.
Vous signez ce matin le choix de la rédaction. L'occasion pour nous de nous intéresser à ces fameuses assignations à résidence en vigueur en France depuis les attentats du 13 novembre dernier et l'instauration dans la foulée de l'état d'urgence. 285 assignations sont toujours en vigueur ce matin sur les 400 prononcés il y a 3 mois. Vous avez rencontré Catherine, l'une de ces personnes qui subit donc ce contrôle quotidien à la suite d'une perquisition.
Et cela fait 3 mois jour pour jour qu'Ali passe le plus clair de son temps dans son 39 mètres carrés entre sa chambre, son canapé, où il se documente sur l'état d'urgence, sur les notes blanches en particulier, ces notes secrètes du renseignement qui le présente comme proche d'un imam radical. Ali réfute ces notes qui lui valent d'être assigné à résidence depuis le 16 novembre.
Tout change dans votre vie, du jour au lendemain. Je dois pointer donc 3 fois par jour au commissariat. C'est contraignant, ça me permet pas en tout cas de pouvoir travailler aujourd'hui. À partir du 16 novembre, j'avais commencé en fait à travailler avec une société qui se trouve sur Paris, de la réparation dans la fibre optique. Donc à partir du moment où je suis assigné, je peux pas quitter la ville. Ce qui a coupé net en fait à ce projet-là. J'avais aussi entamé des projets en fait pour reprendre mon métier de base, éducateur. Donc j'avais fait une demande de casier judiciaire vierge, donc que j'ai reçu le 18 novembre. Et effectivement, bon, pas mon casier est vierge. Hein, donc, et c'est aussi la subtilité de ces assignations à résidence-là, c'est que, en fait, c'est pas une condamnation. Donc, il n'y a rien qui est inscrit sur votre casier, mais c'est une peine. Je le prends, en fait, comme une humiliation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai de différent par rapport à une autre personne? Ouais, effectivement, je porte la barbe, je suis musulman. Mais en quoi c'est un crime? En quoi c'est un délit? En quoi ça mérite d'être assigné pour ça? C'est quand même quelque chose qui vous ronge le cerveau.
À ce jour, aucune information judiciaire n'a été ouverte contre Ali, même après une perquisition menée chez lui le 2 décembre dernier.
Alors quel est l'intérêt, Catherine Dutu, de maintenir aujourd'hui ces assignations à résidence?
Pour Céline Berton, secrétaire générale du Syndicat national des commissaires de police, ces assignations, comme les perquisitions administratives, sont tout simplement des outils de renseignement.
Toute action de renseignement ne donne pas un résultat judiciaire immédiat. L'efficacité d'une action de renseignement, c'est aussi d'être en mesure de travailler un peu en secret. Si on donne, dans le cadre de notre recette de cuisine, tous les ingrédients, les services ne disposent plus finalement d'un temps d'avance. Or, l'objectif, il demeure quand même de neutraliser potentiellement des équipes ou de prévenir des développements d'autres actes terroristes. Donc, l'objectif, c'est pas de les enfermer chez eux, c'est de s'assurer au quotidien qu'ils sont bien présents sur les territoires où on les domicilie pour éviter de devoir mobiliser de la ressource humaine, des policiers, des agents des services de renseignement ou des moyens techniques pour s'assurer de leur déplacement et savoir s'ils ne quittaient pas la ville, s'ils ne quittaient pas le territoire, sans qu'on s'en rende compte.
L'argument de la sécurité intérieure, maître Marie Dosé l'entend à chaque fois qu'elle tente de faire lever une assignation à résidence pour ses clients, mais il est difficile de contester les notes blanches des services de renseignement.
C'est très compliqué parce qu'on doit répondre à une assertion et absolument pas à un fait. C'est-à-dire que dès l'instant où on demande un commencement de preuve ou un élément objectif pour valider l'assertion, on nous dit « attention, non, secret défense, c'est beaucoup trop dangereux ». Donc à partir de là, on ne peut pas contredire une assertion. Et c'est toute la difficulté des notes blanches. On est ici dans une défense empêchée. Et je rappelle tout de même que les notes blanches sont censées ne plus exister depuis 2002. En 2002, Nicolas Sarkozy avait indiqué qu'il les supprimait parce que justement, elles mettaient en exergue une absence de sécurité juridique. Et puis finalement, on se rend compte qu'elles persistent et qu'elles persisteront encore et toujours et qu'elles sont produites devant des juridictions qui les valident.
La décision de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur a été plusieurs fois confirmée par son successeur, Place Beauvau, après les attentats de Madrid. En 2004, Dominique de Villepin expliquait que la fiabilité des notes blanches ne faisait, je cite, l'objet d'aucune évaluation. Leur suppression a également été confirmée en 2007 par Michèle Alliot-Marie. Ont-elles vraiment été supprimées puis rétablies? La députée écologiste Isabelle Attard demande aujourd'hui que transparence soit faite sur les méthodes utilisées par les services de renseignement.
Merci beaucoup Catherine Dutu pour ce choix de la rédaction que l'on peut bien sûr réécouter sur notre site franceculture.fr.